Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'église évangélique de Mérin. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous le sommes si nous croyons en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Et c'est ce Jésus-Christ vivant qui vous accueille aujourd'hui dans cette église. Je vais prier pour remettre ce culte, un culte orienté baptême, comme vous avez pu voir sur ma gauche. Et puis ensuite, nous aurons un moment de louange. Père, nous te remercions pour ta bonté, pour ta grâce. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes réunis en Jésus-Christ pour le louer, pour l'adorer. Que nos cœurs, nos pensées soient tournés vers toi, pour que notre reconnaissance monte comme une adoration vers toi. Par Jésus-Christ. Amen.
Oui, bienvenue. Et pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude de venir dans une église, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on chante à l'église, qu'on ne chante pas dans des réunions de travail. Enfin, pas dans mon travail. Alors pourquoi chanter ? Eh bien, je crois que c'est parce que le Dieu créateur nous y invite et nous le dit plusieurs fois dans les psaumes notamment, mais dans plusieurs passages de la Bible, on peut lire que Dieu, il aime nous entendre chanter à sa gloire. Dans le psaume 50, il dit « Si j'avais faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras ou m'abreuver du sang de bouc ? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. » Alors voilà, on va chanter ensemble deux chants. Le premier rappelle les moments forts de la fin de la vie de Jésus, sa résurrection et la promesse d'une vie prochaine. Alors, gloire à Dieu. Et le deuxième, c'est la promesse que Jésus nous a faite pour maintenant, pour aujourd'hui déjà, de nous envoyer son Saint-Esprit. Alors, chantons ensemble. Thank you.
Merci pour ces deux chants. Bon, comme je vous l'ai dit au début, c'est un culte de baptême. Et moi, je ne sais pas, ça me questionne quand même. C'est quoi, pourquoi se faire baptiser ? C'est quoi cette histoire de baptême ? Tu arrives à nous dire un petit peu plus, Philippe ?
Ouais, c'est quand même une question importante, puisqu'on consacre du temps ce matin à deux baptêmes, celui d'Alicia, qui est connue de beaucoup d'entre nous ce matin, et on te souhaite vraiment la bienvenue, c'est un jour important, soigneusement préparé, bienvenue Alicia, bienvenue à ta famille, tes amis aussi, et puis on va célébrer aussi le baptême de Benoît. Et sois le bienvenu, Benoît. Nous, on se connaît depuis très longtemps. C'est des belles trajectoires comme ça. Tu étais un petit bout quand je t'ai rencontré pour la première fois. Tu es un grand bonhomme maintenant. Et je t'encourage aussi vraiment à profiter de chaque instant, comme pour Alicia, du culte de ce matin. Alors, pourquoi on se fait baptiser ? En fait, je pourrais presque vous demander de venir, parce qu'on a fait une préparation au baptême ensemble, séparément, mais ensemble, on a pris le temps. Pourquoi se faire baptiser ? Eh bien déjà, parce que ça fait partie des dernières paroles du Christ. Les dernières paroles du Christ. Avant d'être élevé dans les cieux, le Seigneur Jésus a dit ceci. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » On va faire ça tout à l'heure. « Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Ça, c'est l'affaire d'une vie. « Et sachez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous accompagne. Le baptême, la première signification du baptême, c'est qu'on obéit à une des dernières volontés de celui que notre cœur aime, le Christ. Dans les dernières choses qu'il a données à ses disciples, à nous, à l'Église, il y a cet ordre du baptême. Le baptême, c'est d'abord un signe d'obéissance au Christ. Et je vais le redire parce que je l'ai dit à chacun, chacune, l'obéissance au Christ amène toujours la bénédiction. Pas la santé forcément, pas l'argent, le pouvoir, toutes ces choses qu'on nous vend, mais la bénédiction, sa faveur, sa grâce. Le baptême comme un signe d'obéissance au Christ. Ça va comme première réponse, Johan ?
C'est pas mal, ouais. Mais en fait, dans notre tradition chrétienne, on parle de symbole, d'action symbolique. Finalement, c'est juste une image. J'ai découpé. Très bien, merci. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette notion de symbole dont on parle ?
Alors, effectivement, dans la tradition évangélique et pour une partie de la tradition chrétienne, on ne voit dans le baptême qu'un symbole. Alors, moi, je pense qu'il y a un peu plus, on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais deux mots quand même sur la place des actions symboliques dans nos vies. Parce que les symboles traversent notre existence. À commencer par la naissance, quand on naît, on fait un premier geste très symbolique qui généralement nous accompagne encore toute la vie, on coupe le cordon ombilical. On pourrait vivre avec, les médecins ont dit, mais on le coupe, c'est symbolique, c'est une manière de dire « tiens, il y a une nouvelle histoire qui commence ». Des symboles, on en a quand on entre dans l'âge adulte, je ne sais pas ce que tu as fait pour tes 18 ans, Johan, tu te rappelles ? Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas si longtemps, je m'en souviens bien. J'ai juste fait une fête entre amis, c'est tout, je me suis limité à ça.
Mais c'est symbolique.
Puis boire mon premier verre de vin. Aussi.
Ah ouais, à 18 ans. Ouais. C'était un petit peu plus tôt, hélas. 18 ans, l'ancré dans l'âge adulte. Des fois, on passe son permis. Des gestes symboliques. Des gestes symboliques, il y en a aussi au moment d'un mariage. On va fêter nos 33 ans de mariage. Je ne sais pas si tu te souviens, chérie. Cette année, on fête nos 33 ans de mariage. Quand on s'est marié, on a échangé un anneau. C'est juste un symbole. Ça dit que je suis marié avec Heidi. Mais ce n'est pas rien comme symbole. Ça symbolise une vie, un amour, des enfants, des projets, un symbole. Des symboles, on en a aussi au moment de la mort. On lave encore, on ferme les yeux, on le met en terre ou on l'incinère. Il y a des symboles. En fait, les actions symboliques dans la vie, elles servent à montrer extérieurement quelque chose qui est vécu intérieurement. Elles nous engagent. Elles nous font montrer nos couleurs. Vous dites, vous, et vous allez le dire avec vos mots, que vous aimez Dieu, que le Seigneur est votre salut. C'est quelque chose d'intime, d'intérieur. Et votre baptême va le matérialiser.
Et alors, qu'est-ce que symbolise le baptême ?
Ah, vous avez 3 heures ?
Non, bah écoute, en deux mots, parce que si je te dis fait court, ça va être long, mais...
Il y a des gens qui me connaissent bien. Quelques pistes de ce que symbolise le baptême. Et je vais au moins essayer de faire court. D'abord, il symbolise qu'on est uni avec Christ. Tous les textes qui parlent du baptême dans le Nouveau Testament disent que c'est quelque chose qui nous unit à Christ. Ne savez-vous pas que nous tous et toutes qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort ? Le baptême, c'est d'abord le symbole d'une union avec Christ. Benoît, Alicia, le Christ et vous, c'est à la vie, à la mort. Vous êtes unis à lui. Ça montre aussi, ça symbolise aussi qu'on est mort avec lui. Souvent, dans Romains 6 en particulier, les auteurs bibliques illustrent le baptême avec la mort de Jésus. Sachez bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix. Il y a cette idée de mourir avec le Christ. Et c'est un moment assez fort, on en a parlé dans la préparation, c'est un moment assez fort, ce moment où vous allez, Alicia, Benoît, être immergé dans une sorte de tombe liquide. Ça montre que vous êtes mort avec Christ, qu'il est mort pour vous, que vos fautes sont pardonnées, que vous êtes une femme, un homme sauvé, vous êtes mort avec Christ. Voilà un deuxième symbole. Un troisième symbole, c'est que vous êtes ressuscité avec Christ. Parce que heureusement, vous n'allez pas rester dans cette tombe liquide, 2, 3, 4 secondes, on a dit. Mais vous allez en sortir, dégoulinant de vie nouvelle. Ça symbolise que vous êtes ressuscité avec Christ. Il est ressuscité, pareillement, vous êtes ressuscité. Et puis, un dernier élément que le baptême symbolise, c'est que vous revêtez le Christ. Quand je vous regarde, quand je te regarde, Alicia, quand je te regarde, Benoît, je vois le Christ. Vous toutes et tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Ailleurs, l'apôtre Paul dit que vous êtes ambassadeur, ambassadrice, fille et fils du roi des rois. Vous le montrez. Quand je vous regarde, je le vois. Vous allez laisser des traces dans la vie. Quand les gens vous regarderont, même si vous êtes imparfait, imparfaite, bienvenue au club, ils vont voir quelque chose du Christ. Vous êtes des masques de Dieu.
C'est tout. Donc en fait, le baptême, c'est qu'un symbole.
Alors c'est là où je pense qu'on doit aller un chouïa plus loin. Il me semble que le baptême, il a aussi une valeur. On en a parlé dans notre préparation. C'est d'abord un engagement. L'apôtre Pierre dit « Le baptême ne consiste pas à laver la saleté du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une bonne conscience. » C'est un engagement. Vous vous mouillez pour celui qui s'est mouillé pour vous. Mais c'est un engagement, c'est sérieux. D'où la petite recommandation que je vous avais faite, de rentrer en vous, à l'intérieur, pour voir s'il y a des trucs encore à régler, à aligner, un engagement, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et puis les actes nous apprennent que le baptême, c'est aussi l'occasion de dire quelques mots de témoignage, avec vos mots, pas ceux du pasteur ou du président, ou même des chants que vous avez choisis, qui ont du sens pour vous, mais aussi avec vos mots à vous. À la suite de ce dignitaire éthiopien qu'on trouve dans le livre des Actes et qui dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » et qui ensuite est baptisé sur la base d'une confession de foi, d'un témoignage. Et c'est donc maintenant que ça va être à vous de jouer. Et on va la faire de façon très élégante avec Alicia d'abord. Et je t'invite à venir vers nous, si tu veux bien, Alicia. Donc on va entendre le témoignage d'Alicia, ce faire-heure, on va écouter le chant qu'Alicia a choisi après. Non, on passe d'abord le chant. Comme ça, ouais, comme ça tu peux aussi le chanter. Excuse-moi Alicia. Il faudrait que j'apprenne les déroulements du culte par cœur. Alicia et Benoît ont choisi chacun un chant. Je vous invite à vous lever pour le chanter ou l'écouter. Il va être projeté à l'écran derrière moi avec les paroles. En tout cas, dans notre groupe de jeunes, c'est un chant qui est connu. Si vous le connaissez aussi, chantez-le à pleine voix. C'est le chant choisi pour Alicia. Il dit beaucoup pour elle.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre? perdu mais trouvé par sa grâce, son amour.
Thank you.
C'est un grand honneur de t'accueillir, Alicia. Et c'est pas rien de pouvoir dire et chanter « En toi, je sais qui je suis ». Des fois, on est un peu perdu dans la vie, non? Tu veux nous en dire un petit peu plus?
Avec plaisir. Alors, j'ai pas l'habitude de parler devant des gens, donc c'est un peu flou pour moi. Du coup, alors aujourd'hui, j'ai 15 ans. Et si je suis ici, c'est juste, enfin, devant vous, c'est pas seulement pour vivre un moment symbolique. C'est parce que mon cœur m'a conduite jusqu'à cet instant. Mon chemin vers la foi n'a pas commencé dans la facilité, c'était assez dur. Il a commencé dans la douleur. Quand mon papa est décédé, tout s'est effondré autour de moi. J'étais perdue, je ne comprenais pas pourquoi la vie pouvait être si injuste. Je ne comprenais pas comment continuer à avancer sans lui. Il y avait un vide immense, un silence lourd, une absence qui semblait prendre toute la place. Et pourtant, c'est au cœur de ce silence que quelque chose s'est ouvert en moi. Mon papa croyait au Seigneur. Il venait dans cette église, il s'asseyait sur ses chaises. Ma grand-mère aussi était très engagée. Du côté de mon père, la foi faisait naturellement partie de la famille. Alors quand je suis revenue ici, quand je me suis assise sur ses chaises, quand j'ai entendu les chants résonner, je me suis sentie un peu plus proche de lui. Comme si un fil invisible continuait de nous relier. Au début, je ne savais pas vraiment ce que je ressentais. Je me demandais si c'était de la foi ou simplement un besoin de me raccrocher à quelque chose. Mais petit à petit, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas seulement une manière d'honorer mon papa, c'est autre chose. C'était un appel du Seigneur. Je me suis retournée vers lui parce que j'avais besoin d'une présence quand je me sentais seule, parce que j'avais besoin d'amour quand tout me semblait fragile, parce que j'avais besoin d'espérance quand je n'en voyais plus. Avec le temps, j'ai appris à me reconstruire, à me redécouvrir, à essayer de comprendre qui j'étais sans mon papa. Il y a eu des moments lumineux et puis il y a eu un peu plus sombre. Il y a encore quelques mois, je suis tombée en dépression. Au début, je me disais que ça allait passer. Je pensais que ma foi suffirait à tout guérir. Je me répétais, le Seigneur est avec moi, ça ira. Alors j'ai attendu, j'ai essayé de tenir, mais peu à peu, je sentais quelque chose s'éteindre en moi. Comme si la lumière diminuait, je me sentais vide. Et le plus difficile, c'est que j'avais l'impression de perdre ma foi. Comme si même cette petite lumière-là s'éloignait. C'était une période où je ne me reconnaissais plus, j'avais l'impression de me perdre moi-même. J'ai mis du temps avant d'accepter de me faire aider. J'espérais que tout passerait tout seul, mais accepter de prendre des médicaments, accepter d'être aidée, ça a été une étape importante. Petit à petit, j'ai recommencé à respirer, à retrouver un peu d'équilibre. Et avec cette stabilité, j'ai senti quelque chose revenir doucement en moi, comme une petite flamme qu'on croyait éteinte, mais qui brûlait encore. Aujourd'hui, je sais une chose, la foi ne m'empêche pas de tomber, mais elle m'aide à me relever. Elle ne supprime pas les épreuves, mais elle m'accompagne à travers elles. Pendant ma dépression, une des premières personnes à qui je me suis confiée faisait partie du caté. Et le fait que ce soit quelqu'un de l'Église m'a profondément marquée. Cela m'a redonné espoir, cela m'a rappelé que l'Église n'est pas seulement un lieu, c'est une famille, un refuge. Un endroit où je peux être moi-même, sans masque, le groupe du caté, les personnes ici, les dimanches matins, tout cela m'apporte énormément. Il y a des dimanches où je pourrais rester dormir, aller courir, faire autre chose. Mais au fond de moi, je sais que je veux être ici. Je me réveille et je ressens l'envie de venir, de retrouver le Seigneur, de retrouver cette paix que je ressens dans cet endroit. Et pour moi, cela signifie beaucoup, parce que c'est sincère, c'est venu du cœur. Je voudrais aussi dire quelque chose d'important. Personne ne m'a forcé à être ici. Mes parents m'ont toujours laissé le choix de croire ou de ne pas croire, le choix de me convertir ou non. Et c'est justement parce que cette foi ne m'a jamais été imposée qu'elle est devenue la mienne. C'est un choix personnel, libre, intime. Et c'est ce qui rend ce baptême encore plus précieux. Aujourd'hui, par ce baptême, je ne dis pas que je serai toujours forte, je dis simplement que je choisis de marcher avec le Seigneur, que malgré les tempêtes, malgré les blessures, malgré les hauts et les bas, je décide de lui faire confiance. Je le fais pour moi, je le fais en mémoire de mon papa, et je le fais parce que je sais, au plus profond de moi, que je ne suis pas seule. Je voudrais remercier ma famille et mes proches. Merci de m'avoir laissée libre, merci de m'avoir soutenue, merci d'être là. Merci aussi à toutes les personnes de cette église qui nous accueillent chaque dimanche. Et merci à Philippe qui m'a aidé à venir à vous. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'impact que vous avez, mais pour moi, il est immense. Aujourd'hui, je suis ici avec mes fragilités, avec mon histoire, avec mes cicatrices, mais je suis là, debout, et je choisis le Seigneur. Voilà.
Merci beaucoup. Tu dit beaucoup de choses en peu de temps. Merci de partager ce parcours. Merci à ta famille d'être là, à Yulia, ta maman. T'es rencontrée dans des conditions difficiles et aujourd'hui, c'est un jour particulier. Merci à la famille, ta sœur, ton frère aussi d'être là. C'est vraiment précieux. À Johanna, à Liliane, merci, merci. On va passer à ton baptême avec Rebecca. Rebecca, c'est ma collègue, elle est responsable du culte de l'enfance et du caté. Donc le caté, ça vaut le coup hein, quand même. On va continuer d'encourager, je vais juste tomber la chemise, comme on dit à Marseille. Et puis on t'invite à venir vers nous. Tu peux laisser tes chaussures là, voilà, par là, quoi. Et puis on t'invite à rentrer, on va te basculer dans l'eau après. Ça va, elle est bonne? Tu t'avances un petit peu, tu peux t'asseoir dans l'eau. Et puis on va prendre chacun ta main comme ça. Vous pouvez vous lever hein, si jamais vous avez envie de voir un peu mieux. On s'est dit que techniquement, une autre fois, on ferait un film. Alicia, on a entendu ton témoignage. On a eu tellement de bonheur à t'accompagner ces dernières semaines et puis à le faire dans celles qui viennent. On a entendu ta confession du nom de Jésus, dont tu as besoin, de qui tu veux porter le nom. Est-ce que devant Dieu, devant cette assemblée importante, réunie, devant ta famille, tes amis, tu confesses que Jésus est ton Sauveur et Seigneur? Waouh! Alors sur la base de cette confession, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour Alicia qui a fait ce choix, qui a fait ce pas Seigneur, que tu as entendu son cri, tu as entendu son désir et on sait que toi tu es là, que tu l'accompagnes, que tu ne lasses jamais et qu'elle sait qu'en toi elle a trouvé ce rocher, ce réconfort, cette famille, mais surtout ce papa qui l'aime avec une amour abondante et qui va jamais la lasser, jamais laisser seule. Amen.
Amen. Moi, je te remercie pour Alicia, pour la jeune femme de valeur qu'elle est, pour son intelligence, pour sa pertinence, pour son désir de te suivre et de t'honorer, malgré les vents contraires de l'existence. Ce que tu as commencé de faire pour elle, tu vas continuer à le faire. Tu vas le mener à bien. Et j'aimerais te demander de faire reposer ta grâce et ta paix sur Alicia. Aide-la dans le quotidien, porte-la quand les vents sont contraires. Encourage-la, réjouis-la, rends-la en bénédiction partout où elle passe. Je te remercie pour elle, dans le nom de Jésus. Amen. Ça va? On va te passer un peignoir. Il est en plein, le peignoir. Maintenant, nous allons entendre le chant choisi par Benoît, et puis tu me rejoindras à la fin du chant pour ton témoignage à ton tour. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez, si vous le voulez, et puis si vous connaissez le chant, entonnez-le, c'est un très beau chant aussi.
Tu m'as ébloui.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour.
Chant de délivrance.
Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient.
Chantons ensemble.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Et avant ma naissance,
et avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom,
et tu m'as adopté,
tu m'as adopté.
Je suis
de ta famille, et c'est ton sang coule dans mes veines
d'église.
Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant.
Benoît, c'est un honneur de t'accueillir. Comme dit, on se connaît depuis que t'es enfant. Et puis j'ai devant moi un homme qui a bien grandi. C'est pas facile hein, quand on est dépassé par meilleur que soi. J'aimerais accueillir aussi tes chers parents, Sylviane, et Joël. Et puis, t'as tes frères et sœurs, je crois que c'est Rivka qui n'est pas très bien. Non, elle est là, Rivka. Qui c'est qui n'est pas très bien? Est-ce qu'on peut... Peut-être. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre en charge? Merci. On va se donner 2 minutes. On a une équipe d'infirmiers, de médecins ici, ça devrait le faire. Peut-être on peut juste ouvrir un peu les fenêtres, si vous voulez bien, sur les côtés et puis les fenêtres latérales. Merci, on peut ouvrir là, Joël, merci. Peut-être prends place quelques instants. Tu peux t'asseoir juste devant. Est-ce que vous évacuez cette personne? C'est Amine, hein? Amen. Amen. Voilà, on peut se rasseoir, bien prise en charge, on a une super équipe avec elle, on va encore juste prier pour elle et puis je t'inviterai à revenir vers nous. Cher Seigneur, on te prie pour Amen, en te demandant s'il te plaît de la visiter maintenant, de lui faire du bien, de la rétablir, permet qu'elle reprenne vite des forces. Seigneur, garde-la dans la sérénité ainsi que son cher papa Jonas. Seigneur, dans ta bonté, s'il te plaît, comme tu sais le faire, passe par là et fais du bien. Dans le nom de Jésus, Amen. Viens, Benoît. Trop bien. C'est à toi, tu as le micro. Ouais, on peut monter. De là à dire que c'est fait pour les petits.
Est-ce que vous m'entendez bien là? Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager mon témoignage et de passer dans quelques instants par les eaux du baptême. Je m'appelle Benoît, j'ai 21 ans et je suis issu d'une famille protestante évangélique avec laquelle j'ai grandi dans une fratrie de 4 frères et sœurs qui sont tous présents aujourd'hui. Et je vous remercie aussi tous pour votre venue. Depuis tout petit, je suis plongé dans une vie spirituellement riche avec les camps d'été et hiver organisés par la JAB, Jeunesse Action Biblique, que vous connaissez très probablement. Et ces camps m'ont aidé à développer ma relation personnelle avec Dieu autour de la Bible, avec des temps de méditation et d'adoration. C'est d'ailleurs dans un de ces camps, le 22 juillet 2014, que j'ai fait la démarche d'accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et mon Sauveur, avec une prière qui nous était proposée. Au quotidien, j'étais un garçon plein d'énergie, curieux, motivé, et je voulais toujours avoir quelque chose à faire. Du côté scolaire, j'avais de bons résultats, et je suis aujourd'hui diplômé d'un bachelor en génie mécanique, suite à quoi j'ai intégré une école d'ingénieur cette année. J'aime faire les choses bien, un peu trop bien même, que ce soit à l'école, dans le sport, ou encore pendant une partie de Monopoly, en famille. Et je voulais toujours être le meilleur. Mais le problème, c'est que c'est devenu quelque chose de très toxique dans ma vie. Vous connaissez peut-être l'attichiphobie ou l'allodoxaphobie, ou peut-être que vous découvrez ces deux termes comme moi aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais en un. Et ces deux phobies se rejoignent sur le point de vue d'une peur intense de l'échec et qui découle initialement de la peur d'être jugé. Et j'ai vécu avec ça pendant de très nombreuses années, et même encore assez récemment. À ce sujet-là, il y a un passage dans la Bible qui m'a accompagné. Et il se trouve en Philippiens 4, versets 6 et 7, dont je vous fais la lecture. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et alors, dans les moments difficiles, comme dans les moments de réjouissance, ce verset me rappelle que le Seigneur est autocontrôle et qu'en lui faisant entièrement confiance, il me guide sur le bon sentier. Est-ce qu'il vous arrive de temps à autre d'écouter de la musique? J'ose imaginer que oui, et bien moi aussi, et même beaucoup. Pendant longtemps, la musique prenait une place importante dans ma vie. Ce n'était pas de la mauvaise musique en soi, mais elle ne glorifiait pas Dieu. Mais surtout, j'y consacrais beaucoup de temps, trop de temps. Sans m'en rendre compte, c'était devenu quelque chose qui remplissait ma tête et mon cœur, plus que la parole de Dieu. Aujourd'hui, je réalise que cette habitude m'éloignait peu à peu de lui et que je recherchais de la motivation et du réconfort là où il n'y en avait pas, si ce n'est en Christ. Au fur et à mesure du temps, le Seigneur m'a montré que rien ne peut me combler à sa place. J'ai alors remplacé mes écoutes quotidiennes par des chants de louanges et d'adoration, me permettant de nourrir mon esprit et ainsi me rapprocher encore plus de celui qui a donné sa vie pour moi. Après avoir vécu 3 années universitaires, j'ai eu la chance de rejoindre cette année un foyer chrétien à ouverture œcuménique dans lequel nous vivons ensemble entre protestants, orthodoxes et catholiques. Et honnêtement, c'est d'une richesse incroyable. C'est une vraie bénédiction que de vivre au quotidien avec des jeunes qui ont cette soif pour Christ et avec lesquels nous pouvons prier et vivre ensemble des temps spirituels forts. Et justement, en parlant de moments spirituels forts, j'ai eu l'opportunité de réaliser une semaine de retraite à l'abbaye de Hautecombe. L'objectif étant de pouvoir se recentrer pleinement sur Christ, mais aussi d'être plus attentif à ce qu'il a à nous dire. Je m'y suis alors préparé en me questionnant sur des sujets, et je vais vous en partager un ce matin. Je me posais cette question de prendre le temps. C'est un sujet qui peut sembler relativement simple, mais qui ne l'était pas pour moi. Et le Seigneur m'y a répondu lors de 3 occasions. Pour la première, il faut savoir que j'avais prévu pendant cette retraite de faire la lecture de l'Ecclésiaste pendant cette retraite, à hauteur de 2 chapitres par jour pour terminer avant la fin de la retraite. Et c'est alors que je tombe sur ce fameux chapitre 3 où il est écrit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel, un temps pour le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer. » Avec ce passage, je sentais que Dieu s'adressait directement à moi, mais ce n'était pas fini, puisque quelques conférences plus tard, un orateur en fait aussi la lecture pour en parler. Et c'est vraiment une confirmation de la lecture que j'avais reçue. Et la 3e occasion s'est présentée lors de la distribution de versets, et j'ai reçu le psaume 1, verset 3, où il est dit que l'arbre donne du fruit en son temps. Il y a un temps pour tout. Ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à la question du baptême, mais sans réellement arriver à prendre le temps d'y réfléchir. La parole de Dieu me fait prendre conscience qu'il y a un temps à prendre pour le baptême. C'est une décision que je prends aujourd'hui, c'est un acte d'obéissance à Dieu, et je reconnais devant vous tous réunis aujourd'hui Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur, et que je désire le suivre et lui obéir. L'acte d'obéissance, la foi, amène toujours à la bénédiction, comme tu l'as dit, et c'est d'ailleurs la signification de mon prénom. Par le baptême, je montre mon appartenance à Christ et je m'identifie à lui. Il symbolise mon union avec le Christ, qui est une symbolique forte et qui engage, mais qui n'est pas simplement de l'ordre du symbole, puisqu'il se produit une réalité spirituelle derrière tout ça. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, versets 4 et 5, il est écrit « Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons par une résurrection semblable à la sienne. Mon plus grand souhait, c'est de pouvoir être une lumière, un témoignage pour les autres, par mes actions, mes paroles, mes relations. J'ai à cœur de donner cet amour que Christ me donne. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est le doute, que je mette la foi. Dans ma vie passée, je pensais être à la hauteur, mais en réalité, Christ l'a déjà été pour moi.
Merci beaucoup pour ce que tu partages avec nous. Là aussi, tu ouvres ton cœur, tu nous dis des choses profondes, intimes, que plusieurs d'entre nous pouvons vivre aussi. Merci d'avoir pris le soin de mettre des mots pour nous partager ce témoignage. On va maintenant te baptiser, on va le faire avec quelqu'un qui compte un peu pour toi, parce que c'est ton papa. Un peu pour moi, parce que c'est un cher ami aussi. Et voilà, c'est un moment fort qu'on va vivre ensemble maintenant en te baptisant. Alors n'hésitez pas à vous lever, aussi les amis, la famille, prendre des photos, tout ça, c'est possible. Rivka, si tu as envie de t'avancer, t'hésite pas. Te blesse pas. Ramasse ton ongle. On t'invite à t'asseoir peut-être simplement dans l'eau. Ça va comme ça? Alors Benoît, moment fort à vivre maintenant ensemble. On a entendu ta belle confession. Tu reconnais Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, c'est juste. Alors on va te baptiser ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous aimerions prier pour toi, c'est Joël, ton papa, qui va le faire.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous réjouir aujourd'hui de ce que Benoît nous a témoigné devant toi, devant toute l'assemblée ici présente. Nous voilà, voulons te le confier, te demandons vraiment d'aplanir le chemin de vie qu'il parcourra avec toi dans la vie. Nous te demandons vraiment de lui montrer les voies que tu as préparées d'avance, afin qu'il puisse faire tout ce que tu as préparé avec lui. Et en toi, Seigneur, il le fera. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Je te remercie beaucoup pour Benoît, cher Seigneur, pour cet homme de valeur, de qualité, pour cet homme que tu connais par cœur, que tu aimes, que tu es venu sauver, rassurer, délivrer de ses peurs. Et si jamais ces peurs devaient refaire surface d'une manière ou d'une autre, ou d'autres peurs, tu sauras encore l'apaiser. Parce que ça, c'est ton travail à toi. Seigneur, je te prie que ta grâce et ta paix reposent sur Benoît. Qu'il soit instrument de paix dans ce monde déchiré et déchirant. Seigneur, qu'il fasse du bien autour de lui, comme il l'a fait jusque-là. Éveille pour la suite sur chacun de ses pas. Nous le recommandons à ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.
C'est beau de voir des baptêmes dans l'Église et cela nous responsabilise aussi en tant qu'Église. On a parlé d'enfants de Dieu parce que nous sommes une famille. Et une famille, on prend soin les uns des autres. Et ces actes que nous voyons, ces témoignages, cet acte du baptême, en tant qu'Église, nous responsabilise à les accompagner, à s'inquiéter d'eux, à voir s'ils vont bien ou s'ils ne vont pas bien, à prier pour eux. Et je vous invite à prier justement pour nos deux baptisés, mais aussi nous en tant qu'Église, de se remettre devant Dieu et de pouvoir prendre acte en tant que famille de ces enfants de Dieu qui ont témoigné de leur appartenance à Jésus-Christ. Dieu Père, nous voulons te remercier pour ces baptêmes, pour ces témoignages qui nous enseignent, qui nous réjouissent aussi en tant que famille en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons et nous portons cette responsabilité aussi de s'inquiéter et de s'occuper de notre frère et de notre sœur. Nous te demandons de les bénir, que tu prennes soin d'eux dans la suite de leur vie, et que nous, Église, nous sachions aussi les accompagner. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. J'invite les enfants à descendre avec vos groupes. Et puis j'invite Philippe. Non, pas tout de suite, pardon. Moi aussi, je ne lis pas mon programme. Un chant de transition avec le groupe Louange. Merci.
Je vous invite à une lecture. Éphésiens 4, 1 à 16, qui est affiché derrière moi. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Je vous le demande donc avec insistance, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Or, que veut dire il est monté ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service. Pour que se construise le corps du Christ, de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, si le baptême d'Alicia et de Benoît est une manière d'affirmer leur place inconditionnelle dans la communauté qui a le visage de notre Église ce matin, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas réduire le baptême et plus largement notre vie spirituelle à une voie d'entrée dans une sorte de club qui s'appellerait le christianisme. Le christianisme n'est pas culturel. Il est personnel et communautaire. La vocation qui nous est adressée ici concerne donc notre vie tout entière jusqu'à son aboutissement. L'exhortation de Paul se termine sur la perspective vers laquelle il attire notre attention, c'est-à-dire croître à tous égards en Christ, grandir. Non pas seulement être un bon paroissien du dimanche matin, mais grandir en Christ. Grandir. Cette formule, elle sonne assez bien un dimanche matin dans un office religieux, comme nous en avons nous ici, tous les dimanches matins, grandir en Christ. On le dit, on le redit, mais qu'en sera-t-il demain et les jours et les années suivantes, entre deux cultes, au détour de telle ou telle circonstance de vie, au détour d'un moment fort, comme on en vit parfois avec le Seigneur, quand sera-t-il grandir en Christ? C'est ce que j'aimerais observer courtement avec vous. Voir de quelle manière la grâce qui nous a été donnée, selon la mesure du Christ, est une grâce qui nous fait grandir. Grandir. Le premier point sur lequel je souhaite attirer notre attention, c'est donc la question de l'unité. Parce qu'il peut y avoir une manière de comprendre la lettre aux Éphésiens qui consisterait à vouloir uniformiser tout ce qui bouge. De fait, quand on dit Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça pourrait nous faire penser que le christianisme est une sorte de machine à uniformiser, à aligner tout le monde sur une seule et même norme, ne voir qu'une seule tête. Être chrétien, c'est ça et pas autre chose. Ne serait-ce que une seule foi pourrait laisser entendre que tout le monde doit penser la même chose et croire la même chose. Or, dans les évangiles, nous constatons que l'unité se fait dans la diversité. L'unité se fait dans la diversité. Regardez les disciples de Jésus. Ils ne sont pas formatés, ces gars. Ils ne réagissent pas tous de la même manière. D'ailleurs, certains ont plutôt de la peine avec le pardon. D'autres ont de la peine avec les enfants. D'autres ont de la peine avec les femmes. Tous ont en commun de ne pas comprendre ce que Jésus leur explique et d'être en somme des gens de petite foi. Et plus tard, Paul va se frotter à Marc. Il va s'affronter avec Jacques. Et Pierre sera encore sur une ligne différente. L'unité se fait dans la diversité. Dès le départ. Paul ne se contente pas de le savoir. C'est pas juste un truc intellectualisé pour Paul. Paul, il le vit, ça, à son corps défendant, en refusant de se plier à la ligne du parti qui est formulée par le chef de la communauté de Jérusalem. Paul, il s'en dégage de cette ligne de la première église de Jérusalem. Donc, quand il parle dans ce texte de paix, c'est justement parce que l'état naturel du christianisme, ce n'est pas la paix. Désolé. L'état naturel du christianisme, ce n'est pas la paix. C'est la discorde. C'est le repli identitaire. Dès le début de l'histoire. Et c'est profondément humiliant. Alors, quand Paul nous appelle à nous supporter mutuellement, c'est justement parce qu'il cherche à métamorphoser les oppositions naturelles en énergie positive pour l'en avant et la construction. Il faut qu'on bosse ensemble, les gens, sur ce qui est essentiel. Il faut accepter qu'il y a des différences de compréhension, d'expression. L'unité, elle se fait dans la diversité. Fuyez si on vous dit qu'on ne veut voir qu'une seule tête. Fuyez, c'est dangereux. Les premiers pas du christianisme nous révèlent que le modèle de l'unité se fonde sur la diversité, sur la pluralité. Et ça, c'est pour vous respecter. C'est pour te respecter, toi, avec ce que tu es, ce que tu crois, ta sensibilité, tes envies, tes élans. C'est pour te respecter qu'on dit que l'unité se fait dans la diversité. Paul parle de la force qui convient à chacune des parties du corps. Pas à tout le corps, à chacune des parties du corps. Parce que chacun, chacune est respecté dans sa personnalité, dans ses capacités, dans ses potentialités. On respecte l'individu. Cette diversité, elle se constate ensuite dans les différentes fonctions que les uns et les autres vont occuper dans le corps. Paul dit, les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, les autres sont pasteurs même. Eh ouais. Et puis certains sont matheux. Certaines sont littéraires. Il est même possible, figurez-vous, de vous intéresser à la littérature, au sport, à l'ingénierie, à la biodiversité, sans être mis à l'index. La diversité des dons favorise la pluralité de la société. Quand l'unité est pensée sur le modèle de l'unicité, quand on ne veut voir qu'une seule tête, alors c'est toute la société et toute l'Église qui se trouve appauvrie et qui ne correspond plus à la perspective de Dieu. Parce que Dieu fait croître des personnes, des hommes, des femmes, jeunes ou moins jeunes, en bonne forme ou moins en bonne forme, étudiants, travailleurs, retraités, au seuil de la vie ou à son terme, c'est des individus que Dieu fait croître, pas un groupe anonymisé dans lequel des membres seraient interchangeables. Si tu viens pas un dimanche, tu nous manques. C'est pas une pression pour que tu viennes, Alicia. C'est une façon de dire, tu comptes. Quand Charles Abel et Florence sont pas là exceptionnellement un dimanche, ils nous manquent. On est ensemble. Il faut qu'on avance ensemble. Alicia et Benoît ont une identité singulière aux yeux de Dieu. Ils ont une valeur personnelle. Cette identité ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de l'uniformité parce que ça va appauvrir l'Église. Maintenant, si Paul donne toute sa place à l'individu, il n'écarte quand même pas la communauté, le corps constitué, bien au contraire. Il en fait même le moyen indispensable pour l'épanouissement de l'individu. Quand un baptême est célébré, d'autant plus quand on est jeune, c'est l'occasion de rappeler que nous sommes aimés de Dieu dès le départ. Dès le départ. C'est aussi l'occasion de rappeler le rôle essentiel de l'entourage, des parents en premier lieu, mais aussi de la communauté. Parce que la communauté, elle n'est pas seulement là pour stimuler. La communauté, nous, nous sommes là aussi pour rassurer, pour sécuriser, pour offrir un environnement paisible. Se supportez-vous les uns les autres. Ce lien de la paix dont parle l'apôtre Paul, ce sont des aspects décisifs pour grandir, pour faire grandir dans la perspective chrétienne qui est celle de l'ouverture à l'autre. Nous le savons, la sécurité, c'est un besoin fondamental. Je crois que nos hommes et femmes politiques nous le disent assez ces temps, hein, la sécurité. Ce n'est pas complètement faux que la sécurité soit fondamentale. Tant qu'une sécurité réelle n'est pas acquise, il nous est impossible de nous épanouir, de nous mettre à apprendre de nouvelles choses, à nous émouvoir de la beauté et de la simplicité. Si une communauté familiale ou, à défaut, une communauté éducative, telle qu'une église locale, le caté, les potes, le groupe de jeunes, si une communauté familiale ou éducative n'est pas présente pour garantir la sécurité physique et émotionnelle de nos enfants, alors nos enfants vont se replier sur eux-mêmes. L'enfant ne se repliera pas par égoïsme, mais parce qu'il a un besoin fondamental, fondamental, de sécurité. Or, si son environnement immédiat n'est pas rassurant, l'enfant, il va se replier sur lui-même pour s'auto-rassurer, pour s'auto-suffire. Et il en sera très vite fini de sa sociabilité. Il restera refermé sur lui-même à la manière dont Caïn s'est senti insécurisé. Et l'enfant se fanera. Alors, en faisant communauté, autour d'Alicia et de Benoît, tel un corps bien coordonné, qui forme, dit Paul, un solide assemblage, nous accomplissons notre vocation de corps de Christ, qui est une vocation de solidarité envers ses membres. C'est exactement ce qu'a fait le Christ lui-même, allant, dit Paul, au devant de chacun pour offrir un vrai salut, allant jusque dans les régions inférieures de la terre, jusqu'au tréfonds de mon cœur, pour signifier que lui, le Christ, vient rejoindre même ceux qui sont les plus éloignés, même ceux qui pouvaient craindre être perdus ou irrécupérables. Il vient pour ça, pour nous sauver de nous-mêmes, du péché, et nous ouvrir une vie nouvelle. Une dernière idée et je conclus. La perspective éducative chrétienne, qui est donc exposée ici par l'apôtre Paul, nous dit l'importance, et je le redis, qu'il y a à valoriser l'individu et à l'inscrire dans une communauté sécurisante. Le dernier aspect, il concerne la vérité et l'esprit critique. J'ai hésité, et puis il me semble que le Seigneur me pousse dans cette direction. Pour Paul, l'éducation chrétienne, la vie chrétienne, doit nous permettre de ne plus être, dit-il, des enfants ballottés par les courants d'idées, les vents de doctrine. Ces courants d'idées, ces vents de doctrine, ce sont souvent des tromperies humaines. Ce sont souvent de fausses informations, des contre-vérités, des luttes de pouvoir, même dans les églises, où on veut absolument influencer. La vie chrétienne doit nous permettre de vivre et de proclamer la vérité, dit Paul. Pour Paul, la vérité, c'est un élément qui prend place progressivement dans la maturation chrétienne. Le christianisme n'est pas seulement l'affaire d'un sentiment religieux. Le christianisme, c'est pas seulement l'affaire d'une ambiance fraternelle paisible ou d'une bande de potes qui ont plaisir à se retrouver dans le souvenir d'un homme exceptionnel qui est entré au Panthéon de l'histoire, Jésus. Paul, il fait mieux que parler de la vérité comme d'un élément consubstantiel de la vie chrétienne. Mais il dit qu'un chrétien, une chrétienne, parle la vérité. Parle la vérité. C'est encore mieux que parler vrai. Il faudrait faire un néologisme ici pour dire de vérité un verbe. La vérité, c'est une action, c'est un comportement, c'est une éthique. La vérité. L'être humain, dans la compréhension chrétienne, c'est un être qui est lié à la vérité. Et cette vérité n'est pas innée. Elle ne nous est pas naturelle. Elle requiert une éducation. Elle requiert une démarche scientifique. Elle requiert des comparaisons. Et elle requiert un esprit critique. Réfléchissez à ce qu'on vous sert. Réfléchissez à ce qu'on vous dit. Remettez-le en cause. Remettez-le en question. L'éducation chrétienne, elle ne consiste pas à laisser faire la nature. Il n'a pas suffi de nourrir Alicia et Benoît et de leur acheter des vêtements à leur taille. Il n'a pas suffi de ça. Parce qu'on n'élève pas des enfants comme on élève des tomates. En les mettant au soleil, on arrose, puis ça pousse tout seul. Ben non ! Un enfant a besoin que son intériorité soit nourrie par des idées, par des raisonnements, par des récits, par des informations de ce qu'est le monde réel. Il ne s'agit pas de laisser les gens au milieu d'un champ d'illusions, mais de leur faire découvrir le réel, ce dont on a besoin pour réussir sa vie, le réel. Si nous sommes élevés au milieu d'illusions, nous serons perdus une fois adultes. Et parfois, le christianisme fait ça. Il nourrit les enfants et les jeunes d'illusions. Et quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sont cuits, ils sont perdus, parce qu'on leur a raconté des bêtises. L'éducation, elle consiste à recevoir les clés de compréhension du monde. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. pour vous, Benoît, Alicia, pour vous tous, c'est de vous filer les clés de compréhension du monde pour pas subir la vie. Je conclus. La grâce de Dieu, elle nous fait grandir, grandir, dans le sens d'une plus grande individualité qui ne doit jamais être sacrifiée au profit de la collectivité. Individuellement, vous comptez. Chers amis, vous comptez individuellement. La grâce de Dieu, elle nous fait grandir dans le sens d'une plus grande solidarité avec ceux que Dieu nous confie. Ça, c'est la communauté. On est solidaires les uns des autres. Vous comptez individuellement, mais nous comptons ensemble. Et enfin, la grâce de Dieu, elle nous fait grandir dans le sens d'une plus grande soif de la vérité qui nous permettra d'être face au réel et non pas face à des illusions qui nous font juste plaisir. Développez votre esprit critique. Alicia, Benoît, bienvenue dans la communauté. Que le Seigneur fasse reposer sur vous sa grâce et sa paix, comme il le fait pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.
Merci Philippe pour ce message, tu as rappelé le corps et nous voilà de nouveau devant un symbole en fait, ouais. C'est ça hein, la scène c'est un symbole.
Entre autres ouais, entre autres, mais c'est aussi une proclamation, quelque chose d'assez concret. Hein.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on va se souvenir des dernières paroles du Christ, là aussi qui nous a invités à prendre un peu de pain en souvenir de son corps brisé pour nous. Et que ce pain, c'est sa vie pour nous. On va prendre un peu de vin ou de jus de raisin, en nous souvenant ces dernières paroles du Christ, qui a dit, ben voilà, ça c'est le sang qui est répandu pour une nouvelle alliance, pour une nouvelle histoire, on la démarre ensemble, je suis pour vous, ça c'est du concret. Et moi, ces vérités concrètes, je sais pas toi, mais moi elles me nourrissent, au oui. Propre comme au figuré.
Oui, et c'est toujours un moment qui est très agréable de prendre conscience en fait de ce cadeau qui nous a été fait. Et en plus, avec ces témoignages qu'on a eus tout à l'heure, c'est vraiment enrichissant et ça nous ramène à notre propre personne ouais. Face à Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est un moment qui est particulier pour se remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous.
Ouais. Et on veut le faire maintenant, se souvenir de ce que Jésus a fait.
En toute simplicité,
ouais.
En communauté, ce côté de famille, moi j'aime bien ce côté ouais. de famille, on est tous enfants de Dieu. Si on accepte ce don de Jésus-Christ,
ouais.
Et moi, je pense qu'on peut y aller.
On peut y aller.
Ok.
T'avais prévu une petite
oui,
équipe pour la distribution.
Oui, une petite équipe, ouais, assez familiale.
Ah, c'est joli.
Alors.
Donc la scène, elle est là pour être prise. La table, elle est ouverte. Si vous vous reconnaissez dans la personne et l'œuvre du Christ. Prenez ce pain, prenez ce vin, ce jus de raisin, nourrissez-vous-en. Il est celui qui vous aime et qui vous nourrit. Bon repas.
J'aimerais juste prier. Dieu à Père, nous voulons te remercier pour ces symboles que tu nous donnes, qui vont au-delà de simplement des symboles, mais qui travaillent dans nos cœurs, dans notre âme. Te remercier parce qu'on peut se souvenir chaque dimanche de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est une grâce de ta part et un amour inconditionnel pour tous tes enfants. Par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, on va passer à un temps d'annonce qui se veut aussi être un temps d'offrande. L'offrande, ben, voilà, c'est ce que vous avez sur le cœur pour donner à l'Église, qui permet de faire vivre cette Église. Alors, on va, pour ce faire, il y a... Je laisse prendre. Vous avez soit par Twin, soit mettre dans les petits sachets, ou il y a encore des bulletins de versement, ceux qui préfèrent faire par virement bancaire. C'est pour notre vie d'église, c'est ce qui permet de payer le salaire, payer le bâtiment. J'aimerais aussi faire un remerciement à tous ceux qui œuvrent et qui font un service dans l'église. C'est aussi une manière d'offrir sous forme de temps. Et merci particulièrement ce matin à tout ce qui était préparation. Et aussi le groupe Louange, et aussi à notre équipe médicale improvisée. Merci pour votre réactivité sans faille. Merci beaucoup. Dans les annonces, alors, vous les avez dans le programme ou différents moyens de communication. Principalement, cette semaine, vendredi à 19h30, nous avons le colloque, notre assemblée générale, qui sera l'occasion de passer en revue l'année 2025, tant au niveau financier qu'au niveau des activités. Donc venez nombreux. Ensuite, le dimanche 15 mars, pour les jeunes, il y a le culte R3 POT. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez demander à Rebecca, qui est en bas, que vous avez vu tout à l'heure. Non, elle est là. Ouais, elle est là, magnifique. Toujours auprès de Rebecca, vous pouvez vous approcher d'elle, puisqu'elle est responsable de la jeunesse. Il y a un événement, le Goûter des Princesses, le 28 mars, pour lequel vous pouvez vous inscrire, ou inscrire plutôt vos enfants, quoique, on ne sait jamais. Et puis, pour le dimanche 5 avril, qui est le dimanche de Pâques, il y a un menu exceptionnel qui est prévu et qui est organisé par les Dubost. Il y a encore la possibilité de s'inscrire auprès de Xavier, et c'est à la sortie, vous trouvez dans le hall d'entrée. Et puis, encore une chose, c'est qu'après le culte, il y a un petit temps d'apéro. Merci à ceux qui l'ont préparé, qui l'ont organisé. Donc, restez encore pour échanger, pour discuter. Et puis, je crois qu'au niveau des annonces, c'est tout. Maintenant, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Nous avons eu l'occasion de parler d'enfants de Dieu. Nous avons eu l'occasion de parler de famille. Et ces choses-là, il faut qu'elles restent dans nos cœurs pour cette semaine. Et pour y arriver, je vous lis un verset de 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Je vous invite durant cette semaine à rechercher Dieu, à apprendre à le connaître, à apprendre à connaître Jésus, pour que la paix et la grâce vous soient multipliées. Allez en paix. Bon dimanche.
Merci Joanne.